Et dans l'affaire du Mediator, un syndicat de médecins va porter plainte contre l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire, pour manquement à l'obligation d'information et pour faute. Cette décision intervient au lendemain de l'adoption au Conseil des ministres du projet concernant la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du Mediator. Or, selon la Fédération des médecins, ce texte ministériel ne protège pas les médecins. Le trafic s'annonce perturbé en France, en Île-de-France, sur la ligne A et B du RER. Prévoyez un train sur quatre sur la ligne A et un train toutes les demi-heures sur la B. Les conducteurs RATP sont en grève non reconductible. Le mouvement porte sur les salaires et les conditions de travail. Les groupes politiques de Nouvelle-Calédonie seront reçus la semaine prochaine par le Premier ministre François Fillon pour évoquer la crise institutionnelle de l'archipel et l'évolution de ses liens avec la France. C'est ce qu'ont indiqué les responsables calédoniens. François Fillon a notamment pris cette initiative pour comprendre la position des acteurs locaux avant la présentation d'un projet de loi destiné à éteindre la crise politique en cours depuis le 17 février, au moment où le gouvernement présidé par Philippe Gomez a été renversé. En Espagne, environ 15 000 personnes ont été jetées à la rue par le séisme de magnitude 5,1 qui a fait 9 morts et environ 130 blessés mercredi à Lorca. Hier, les secouristes de l'armée et de la Croix-Rouge espéraient pouvoir héberger au moins 2500 personnes. La convention de Schengen sera réformée. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont mis d'accord hier à Bruxelles. Les frontières extérieures de la zone Schengen seront donc renforcées. Les contrôles aux frontières nationales entre la France et l'Italie, par exemple, pourront être rétablis dans des conditions très strictes. Par ailleurs, Bruxelles a demandé au Danemark des assurances écrites sur sa décision prise le 11 mai de vouloir rétablir les contrôles douaniers à ses frontières nationales. Cela n'aura aucun impact sur la liberté de circulation des personnes. Et puis le retour de la croissance, plus 1% au premier trimestre 2011. Un tel chiffre n'avait pas été atteint depuis 2006, selon Christine Lagarde, la ministre de l'économie. Pour François Fillon, la France sort progressivement de la crise. Le Premier ministre était l'invité de TF1 hier soir et il s'est posé en rassembleur de la majorité. Il a jugé que la querelle sur le RSA était close. Et le Premier ministre, ayant pris acte du rétropédalage de son ministre des Affaires européennes, Laurent Wauquiez, qui estime avoir été mal compris, il va donc s'abstenir d'intervenir à nouveau sur le sujet. Le cardinal André XXIII a réagi à la mise en place d'un pass contraception dans les lycées d'Île-de-France qui met à disposition des élèves un accès gratuit, anonyme et adapté à la contraception pour réduire le nombre d'avortements chez les mineurs. Et sur Radio Notre-Dame, l'archevêque de Paris a regretté que l'on détourne la responsabilité des jeunes. Il a souhaité qu'on les aide à prendre plutôt conscience de la dimension plénière de la sexualité. Il estime par ailleurs que c'est une erreur de croire que l'augmentation de la pratique contraceptive réduit le nombre des avortements.
La voie est libre. Dans La voie est libre du jeudi 19 mai à 9h, Sabine de Rosière présente une émission en partenariat avec Famille Chrétienne sur le thème « Les musulmans peuvent-ils se convertir au catholicisme ?» avec Mohamed Christophe Bilek et Samuel Pruvot de Famille Chrétienne. Retrouvez des compléments sur ce sujet sur le site www.famillechrétienne.fr.
L'agenda musical, une émission d'Edith Walter, chaque vendredi à 16h et le dimanche à 14h30.
Du 9 mai au 6 juin, découvrez dans La Croix une grande enquête sur l'éducation et la formation. Quel grand chantier pour l'école française? Comment se former tout au long de la vie? Quelle piste pour apprendre avec plaisir? À un an de l'élection présidentielle, découvrez le quotidien La Croix et ses pages « Apprendre autrement ». En vente chez votre marchand de journaux. La Croix, donnons du sens au quotidien.
Ah, le printemps, les oiseaux qui chantent.
Pour votre confort, pensez à remplacer vos vieilles fenêtres. Pour une meilleure isolation, mais aussi pour remplacer portes ou volets, la Maison de la Fenêtre est le spécialiste qu'il vous faut.
De plus, jusqu'au 30 juin, une remise de 20% vous sera accordée.
Appelez vite pour demander un devis, il est gratuit, tout comme le déplacement.
La Maison de la Fenêtre, référencée par l'Association française du consommateur. 01 42 11 0303. 01 42 11 0303.
Dimanche 15 mai à 15h30, participez à la messe célébrée en hommage aux chrétiens d'Irak par sa béatitude Ignace Youssef Younan, patriarche syrien catholique. Un événement majeur organisé à la cathédrale de Paris par l'Œuvre d'Orient. Une occasion pour chacun de marquer sa communion avec les chrétiens d'Irak et de tout l'Orient. Dimanche 15 mai à 15h30 à Notre-Dame de Paris, avec l'Œuvre d'Orient, les chrétiens de France portent l'espérance à leurs frères orientaux.
La voie est libre.
Sabine de Rosière.
Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre. Nous sommes ensemble pour une heure. Comme tous les jours, ce matin, nous revenons sur cette tentative d'assassinat contre Jean-Paul II il y a 30 ans, qui était vraiment derrière cette entreprise machiavélique, ce 13 mai 81, place Saint-Pierre à Rome. Quelle est la version la plus plausible, celle qui restera dans l'histoire? Le sujet a fait l'objet de nombreuses enquêtes, et cela pendant des années. Était-ce le KGB avec l'Union soviétique, la filière bulgare, ou bien la CIA avec la piste turque, des loups gris, ou d'autres encore? Pour en parler, je reçois Roumiana Ougarchinska, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation et spécialiste des pays de l'Est. Vous êtes aussi chargée de cours à l'Institut de criminologie de Paris et vous avez mené une enquête sur ce sujet pendant plus de 10 ans. Et vous avez écrit un livre d'ailleurs qui s'intitule « La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II aux presses de la Renaissance ». Et puis j'ai à vos côtés Xavier Guillou, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste de la prévention des risques et de la gestion de crise. Et par ailleurs, vous êtes un ancien responsable des services secrets français, justement, sur ces questions de gestion de crise, une fonction que vous avez occupée de 82 à 88. Oui. Voilà, alors saura-t-on un jour qui étaient les commanditaires d'Ali Hadja, parce que c'est comme ça qu'on prononce en turc? Appelez-nous si vous souhaitez participer à l'émission et poser vos questions, 01 56 2 fois 44 2 fois, et mes invités vous répondront, comme toujours. Roumiana Ougarchinska, le 13 mai 81, on est en pleine guerre froide, Jean-Paul II est pape depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous pouvez nous resituer le contexte de cette tentative d'attentat?
Alors, c'est le 13 mai, c'est lors des audiences publiques de Jean-Paul II. Donc, à l'époque, ça se passe sur la place Saint-Pierre. Il fait le tour de la place, il entame le deuxième tour. Et c'est à ce moment-là qu'on entend des coups de feu qui viennent de la foule. Et très vite, donc, est interpellé un jeune homme. Il est turc. Il ne parle pas italien. Il est armé d'un Browning. Et le pape est emmené à la clinique Gemelli, et on sait qu'il est gravement touché. Deux autres pèlerins sur la place sont également touchés. Et tout de suite, on se pose la question, mais qui est cet homme? Pourquoi a-t-il voulu tuer le pape? Et quelles pourraient être ses motivations? Il a été très vite condamné. Il y a eu un premier procès qui a duré à peine 2 mois et demi. Il a été condamné à la prison à vie très rapidement. Mais on n'a pas, je dirais, cherché au début précisément qui avait organisé cela. On a conclu que c'était le fait d'un homme isolé, un peu illuminé, qui aurait cherché à atteindre le pape et la chrétienté, puisqu'il était turc et musulman. Voilà, c'était la première thèse. Et puis après, se sont ouverts beaucoup de questions.
Alors justement, voilà, est-ce qu'on peut resituer un petit peu qui était Ali Hadja exactement? Il était turc, vous venez de le dire.
Alors, Ali Hadja était turc, mais il était surtout membre d'une organisation d'extrême droite, une organisation assez violente qui avait commis beaucoup de méfaits en Turquie, avait participé donc à des opérations de déstabilisation du régime. Ils étaient d'extrême droite et ils étaient la main armée du parti nationaliste turc, le MHP, qui était dirigé par le guide Alparslan Türkeş, qui avait véritablement une doctrine fascisante à l'époque. Ces loups gris, donc, étaient une organisation armée, utilisée pour des opérations souvent clandestines.
Donc, alors, Ali Hadja faisait partie des loups gris.
Oui, alors, il faut savoir qu'Ali Hadja, avant d'attenter à la vie du pape, avait déjà commis un meurtre. Il avait tué le rédacteur en chef d'un journal libéral turc extrêmement important, Milliyet. Il avait tué ce rédacteur en chef. Ça avait beaucoup ému l'opinion publique turque. Et il était en prison. Il devait être jugé pour cet acte avant qu'il ne réussisse à s'échapper, et bien avec la complicité des loups gris, mais aussi avec la complicité de certaines personnes dans la prison même, de militaires. Il y a eu un procès après qui a établi qui l'a aidé à s'échapper. Et dès le lendemain de son évasion, il écrit une lettre aux journaux en disant qu'il avait l'intention de tuer le pape. Il faut savoir que c'était la première visite du pape qui était annoncée à Istanbul. Et Donc il avait, c'était à l'automne 79, fin 79.
Alors déjà là on a une piste, hein, la piste que vous défendez d'ailleurs, la piste des loups gris. Et Jean-Paul II était aussi dans le collimateur de plusieurs dirigeants des pays de l'Est. On pense évidemment à la pression imposée par Brejnev, le président du Soviet suprême. Quelques mois avant ce fameux 13 mai 81, Alexandre de Marange, qui était le chef du contre-espionnage français, avait prévenu que les services soviétiques préparaient l'attentat du pape, l'assassinat du pape. Mais selon vous, Roumiana Ogarchinska, cette thèse n'est pas la bonne.
Écoutez, c'est extrêmement curieux, ces alertes qui ont été envoyées par les services secrets français, enfin principalement par Alexandre de Marange, puisque j'ai interrogé non pas Monsieur Guillot, mais il va nous aider à comprendre, mais Monsieur Marion, par exemple, qui était justement patron à partir de 82 de la DGSE, du service de renseignement extérieur français. Donc, n'ayant pas pu interroger Monsieur Alexandre de Marange, je me suis tournée vers lui et lui m'a dit « on n'a rien trouvé par rapport à ces alertes, mais il y en a eu trois ». Et oui, des agents des services français sont allés prévenir de l'imminence d'un attentat.
Alors, Xavier Guillou, vous connaissiez...
Oui, d'abord, il y a eu en effet des informations qui ont été données au Vatican, ça je peux le confirmer. Monsieur Marion et Monsieur de Marange sont plus là pour pouvoir en parler, donc on va les laisser quand même propriétaires de leurs affirmations de ce côté-là. Mais bon, il y a eu quand même un certain nombre d'alertes qui ont été distillées et qui ont été transmises. Il faut voir que nous étions dans une période quand même où le niveau de schizophrénie réciproque entre l'Est et l'Ouest était quand même au plus haut niveau, hein, puisqu'on était à l'avant-veille quand même de la chute du mur, d'un certain nombre d'événements qui ont complètement modifié quand même toute la géopolitique que nous pouvons connaître aujourd'hui. Et ce style de contexte est propre à ce style de situation un peu schizophrénique, hein, où tout le monde s'observe, se menace, bouge. De là à ce qu'on passe à des informations qui soient avérées, c'est autre chose.
Alors, Xavier Guillou, quelle est votre position par rapport à cette tentative d'attentat de Jean-Paul II?
Alors, l'affaire des loups gris, c'est une affaire que
défend Roumiana.
Oui, mais que tout le monde connaît bien. Si les auditeurs veulent se familiariser avec cet univers-là, il y a un très bon film qui a été fait avec Jean Reno, qui s'appelle L'Empire des loups, qui est une fiction, mais qui rend bien compte du niveau de violence. Hein, c'est à la fois de la violence para-étatique, mais aussi c'est clanique, et c'est un petit peu les codes que l'on retrouve autour de la Méditerranée avec un certain nombre de mafias.
Parce que ces loups gris sont employés finalement, c'est un peu comme des mercenaires, ils sont employés par les différents services secrets de l'Occident.
Ouais,
est-ce que c'est ça?
Bon, c'est...
Pour ouais. Qu'on essaye de se figurer un petit peu qui sont ces loups gris concrètement dont on entend parler.
Oui, enfin, disons que là-dessus, il y a toute une, là aussi, il y a toute une fiction qui est entretenue depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'armée américaine qui a utilisé la mafia sicilienne pour pouvoir reconquérir une partie de l'Italie sans avoir à livrer combat contre l'armée allemande, etc. Bon, il faut être conscient que l'ensemble du bassin méditerranéen, notamment sur la partie méditerranée orientale, on a des réseaux qui fonctionnent. Vous avez les réseaux kosovars, vous avez les réseaux turcs, vous avez ce qui se passe au Liban ou dans les montagnes du Liban, etc. Enfin bon, donc tous les services sont obligés de regarder. Avec ces biotopes, hein, qui sont quand même pas les univers qu'on connaît en Europe du Nord et autres. Voilà. Donc, je veux dire que, notamment les milieux politiques, qu'on prenne l'Italie, qu'on prenne l'ex-Yougoslavie, les Balkans, toute la zone du Caucase, etc., et il y a une interférence permanente entre ces milieux mafieux, ces réseaux parapolitiques et le monde politique local qui fait que, de temps à autre, tous les services du monde se trouvent plus ou moins au contact de ces gens-là. Il ne faut pas faire d'illusion. Hein.
Alors, sur cette tentative d'assassinat de Jean-Paul II, le 13 mai 80, parce qu'il y en a eu une quinzaine de tentatives d'assassinat de Jean-Paul II, qui est-ce qui a mené l'enquête? Ce sont les services secrets italiens, c'est la police italienne qui a mené l'enquête, Roumiana Ogarchinska.
Alors, c'est la justice italienne d'abord, donc qui a demandé aux services italiens de fournir... des informations et d'enquêter, donc sur commission rogatoire, tout le monde s'y est mis, police, service de renseignement extérieur, contre-espionnage, enfin, tous les services italiens ont été mis à contribution. Il y a eu des commissions rogatoires également envoyées en Allemagne, parce qu'il y a une note donc du SISMI, le service italien de renseignement extérieur, qui est arrivé très vite, une semaine après l'interpellation ou la demande du juge italien de savoir qui est cet Aliaga. Donc une semaine après, il y a une note donc que je puis me procurer, qui est très précise. On donne les trajets d'Aliaga, donc pendant plusieurs mois. Il a fait des allers-venus entre l'Autriche, la Suisse, l'Italie. Il est parti un peu voyager à Majorque, en Tunisie. Il a fait de multiples passages sur les frontières européennes. Or, il était recherché par Interpol à cause du meurtre du rédacteur en chef. Donc ça, c'est extrêmement troublant. Et donc, on a son périple. En une semaine, imaginez, à l'époque, il n'y avait pas fax, iPhone, etc. Donc, ils étaient quand même très rapides, hein, les services italiens, pour fournir en une semaine ce genre de renseignements, c'est chapeau. Et ils donnent les noms de ceux avec qui il était en contact. Et là, quand on regarde les noms, eh bien, on se rend compte que tous sont membres des Loups Gris et pas n'importe qui. Il y avait aussi des gens qui étaient au plus haut niveau de cette organisation, qui se cachait derrière ce qu'on appelait les foyers d'idéalistes, qui avaient essaimé dans l'Europe entière, hein, sur la base des travailleurs immigrés turcs. Donc il y avait des cellules de ces gens-là en Autriche, en Allemagne surtout, hein, le siège était en Allemagne, il y en avait aussi en France. Et donc on voit très bien que la logistique, l'entourage, l'arme, également, les armes ont été achetées par ces gens-là, ont été fournies via l'Autriche en passant par la Suisse. Un loup gris vient apporter le Browning en Italie à la gare, à Aliaga. Donc, ça permet de vraiment d'établir, et c'est la justice italienne. Ce sont les services italiens qui l'ont établi. Même ça, c'est parce que ce sont les investigations de la justice italienne et parce que j'ai beaucoup travaillé avec les juges italiens. Je rencontre énormément de monde en Italie. Et ensuite, j'ai essayé d'aller conforter ça avec des visites en Turquie. J'ai notamment réussi à approcher celui que personne n'a réussi jusqu'à présent, à savoir l'un des principaux complices d'Aliaga, un autre membre des Loups Gris, qui est aujourd'hui en liberté.
Et qui était sur la place Saint-Pierre le jour.
Il était sur la place Saint-Pierre. Alors, lui ne l'avouera jamais, hein. Il va vous dire, non, mais je sais tout, mais quand il vous décrit comment ça s'est passé, il n'y a que quelqu'un qui était présent, qui peut savoir exactement ce genre de détails, l'angle de tir. Et lui, donc confirme ce que les juges italiens ont établi, à savoir qu'il y avait au moins 5 personnes, dont un bon nombre de loups gris. Mais, et c'est là que c'est extrêmement dérangeant, les juges italiens sont persuadés que ces gens-là, même s'ils avaient un réseau très bien établi en Europe, même s'ils avaient des relais, n'auraient pas pu organiser l'attentat tout seul.
Mais alors, justement,
sans complicité.
Pourquoi est-ce qu'elle est
locale ou occidentale? Et là est la grande interrogation.
C'était quoi le grand objectif d'Aliaga? Parce que si vous dites qu'en 79, il écrit déjà une lettre pour dire qu'il veut tuer le pape, il était suicidaire. Il savait qu'il allait se faire prendre quand même sur la place Saint-Pierre. Tiré, il est quoi, à 5 mètres du pape, il lui tire dessus. C'est quand même évident qu'il va se faire prendre. C'est un peu suicidaire, non?
Mais c'est un personnage assez fascinant et assez curieux. Il est un peu, comme disent les spécialistes, borderline, hein, psychologiquement parlant. C'est un illuminé. Et dans la mesure où il a son fait d'armes de l'assassinat de Abdi Pekci, donc le rédacteur en chef du journal turc, et qu'il est devenu un symbole, quelqu'un auquel se réfère toute une jeunesse extrêmement endoctrinée par les loups gris, par cette mouvance d'extrême droite. Donc, il est le meilleur, il est le plus grand, donc ça ne lui pose pas un problème. Il a déjà tué, il a été en prison, l'a fait évader, donc dans son esprit, ça va se passer de la même façon.
Et est-ce que les services secrets français ont collaboré à l'enquête?
Oui, dans ces cas-là, je veux dire, il y a une... il y a des relations permanentes entre les services, hein, notamment occidentaux, hein, et surtout à l'époque. Hein, donc, tout le monde se parlait, hein, tout le monde... Pensez bien qu'un événement de cette envergure-là, tout le monde est sur le pont, hein, tout le monde est mobilisé face à des impacts qui sont tellement, tellement graves. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque, on était quand même dans un contexte où la Pologne était en train de s'exprimer quand même de façon assez aiguë avec Lech Walesa, les chantiers qui se mettaient en grève,
etc. Et puis Jean-Paul II venait d'écrire une lettre après Genève en lui disant, moi je soutiens
avait dit, bon bah écoutez, grosso modo, moi je soutiens non seulement le mouvement, mais j'irai jusqu'au bout, même s'il faut que j'abandonne mes prérogatives au Vatican, je le ferai et je repartirai en Pologne et je serai aux côtés des leaders du mouvement. Donc c'est évident qu'une prise de position de ce niveau-là ne passe pas inaperçue, si vous voulez, dans le combat de géants qui était en train de se passer entre notamment les États-Unis et l'Union soviétique. J'aimerais faire un petit peu de prise de recul parce que si on va sur la problématique d'Aliaka qui est le bras exécutif, hein, et qui donc est entre le tueur, l'illuminé, l'homme qu'on manipule ou qu'on va utiliser. On sera pas sur le vrai sujet. Enfin, pour moi, on sera pas sur le vrai sujet. Il faut savoir que quand il y a des grands événements majeurs, les services, en effet, peuvent aller jusqu'à utiliser, pour des raisons d'État, des mains exécutives qui seront pas forcément très vertueuses. Hein. Il faut, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Hein. Vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament, ça existe déjà. Donc là, si vous voulez. Donc on peut beaucoup discuter sur la vertu, si vous voulez, de ces opérations-là, avec les niveaux de logistique, d'appui, etc. C'est plus qu'à l'époque, en plus de ça, quand vous regardiez les affaires de terrorisme ou les affaires de manipulation de masse, il y avait des logistiques gigantesques, enfin que aujourd'hui nos concitoyens ignorent, ne connaissent pas. Enfin bon, il y avait des bagarres sur, par exemple, autour du pacifisme, etc., qui nécessitaient du côté de l'Est des outils gigantesques. Donc ça permettait de pouvoir fluidifier toutes les opérations qu'on pouvait imaginer. Là, en l'occurrence, on était dans des opérations qui étaient massives, où les Américains avaient pris conscience depuis quelques années que on ne pourrait plus conserver le même niveau de symétrie dans les confrontations idéologiques parce que les Chinois commençaient à émerger. Enfin, il y avait plein d'autres jeux qui commençaient à apparaître. Il y a eu des discussions avec les Soviétiques pour essayer de les faire évoluer. Brejnev ne voulait pas évoluer. Et la tentation était même très très forte du côté de Brejnev, voire de certains milieux soviétiques, d'aller jusqu'au bout du raisonnement et dans la confrontation Est-Ouest, de faire en sorte que notamment la sanctuarisation de l'Europe ne soit plus comme elle avait été imaginée après Yalta. Et donc c'est là où un Jean-Paul II, c'est là où un certain nombre de grands leaders d'opinion, comme Václav Havel ou d'autres en Europe centrale, ont commencé à s'opposer à un certain nombre de dérivés. Et c'est là où il y a eu, ce pape qui s'est dressé.
Mais là, contre vous nous refaites un petit peu la géopolitique de l'époque pour qu'on comprenne bien.
Je pense que si vous voulez, là, une des raisons de. Enfin, moi, je suis très très proche de la thèse de Bruguière que vous ne
donc,
vous contestez.
Donc la thèse inverse de Rouen.
J'ai pas mal d'éléments quand même dans ma besace et je pense qu'il y a eu en effet à un moment donné une tentation de l'Union soviétique et d'une partie du pouvoir en Union soviétique de mettre un terme si vous voulez à cette opposition notamment dans les pays de l'Est.
Oui, mais alors Ali Hadja était un loup gris, ça on le sait, c'est
avéré.
Oui, mais
ça c'est l'utilisation de réseaux pour pouvoir mener des opérations et quand on utilise des opérations comme ça, si vous voulez la plupart des services secrets du monde ne vont pas mettre en place une opération pour qu'on remonte directement à eux.
D'accord. Oui, mais c'était quoi l'intérêt dans ces cas-là? Les loups-gris étaient à la solde de qui
Ils sont à la solde de ceux qui payent, hein, de ceux qui les.
Donc ça pouvait aussi bien être les États-Unis que l'Angleterre que la Chine.
Je vais vous dire, dans ces quand vous êtes au contact de ces mafias-là, ces mafias ils ont des codes pour eux, mais ils sont.
C'est l'appât du gain uniquement. Ouais. Celui qui paye le plus, c'est lui qui remporte qui remporte la mise. Mais alors, à ce moment-là, qui était Rumiano Garczynska? Qui était derrière les loups gris au moment de l'attentat?
Écoutez, moi, je me dis qu'il faut quand même suivre leurs traces et savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils séjournent, qui les finance. qui leur permet d'avoir des faux papiers, etc., etc. Bon, alors, je me suis posé la question de la filière bulgare et je suis...
Donc ça, c'est l'autre théorie.
Je suis allée trouver, parce que à un moment, si vous voulez, quand on parle des loups gris, bon, on sait, c'est Aliadja, c'est un tel, hein, on connaît les noms des complices, on sait qui ils sont, et il y a des choses extrêmement étranges et intéressantes sur lesquelles Monsieur Guillou, j'espère, nous donnera une réponse concernant ces gens-là. Mais, donc, concernant les bulgares et les soviétiques, bon, il faut savoir que ces régimes sont tombés, hein, et qu'il y a une masse énorme de documents qui ont été déclassifiés. Bon, ils sont pas vraiment triés, moi j'ai pu en consulter avant qu'on les déclassifie, et après, j'ai eu cet avantage, bon, il y a des choses que j'ai vues, je devrais jamais dire que je les ai vues, hein, je peux aller en prison à cause de ça, mais bon, je l'ai fait parce que ça nécessitait la trinque de la vérité. Et au départ, je me suis dit, bon, alors, trouvons qui ? Hein, puisque.
Et pourquoi est-ce qu'on parle de la filière bulgare si c'est le KGB ?
Alors, Aliadja a passé un mois et demi, hein, sur son trajet donc après son évasion de Turquie, il a passé un mois et demi en Bulgarie. Mais avant ça, il a par exemple passé 3 mois en Iran. On n'a pas enquêté. Donc tout le monde s'est focalisé sur ce séjour en Bulgarie où il a séjourné sous de fausses identités. Donc, sachant, moi, que, à l'époque, quand vous passiez une frontière, une porte, un hôtel, que vous mangiez, que vous téléphoniez, il y avait des traces partout. Mais partout, c'est, bon, on ne pouvait pas faire éternuer sans être suivi. Donc, forcément, il y avait des traces. Donc, je suis allée les chercher. Et, effectivement, même, les Bulgares avaient vraiment tout brassé, tout réuni, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que, au lendemain de la chute du mur, le premier président démocrate bulgare, qui est un dissident, Monsieur Jelef, a ordonné qu'il y ait une instruction et que tous les services secrets livrent leurs fonds. Hein. Donc ça a été réuni dans une instruction qui était secrète, que j'ai consultée, et dans laquelle il y avait tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'ils avaient reçu ou écrit. Et il n'y avait pas, non seulement il n'y avait pas la preuve de qu'ils auraient organisé quelque chose, mais en plus, ils se sont fait tirer les oreilles par Moscou, parce qu'il y a des télégrammes de Moscou, les rappelant à l'ordre et leur disant, attendez, là, on est en train de parler d'un séjour d'Aliadja en Bulgarie, mettez en ordre vos gens et dites-nous ce qui s'est passé, vous avez tant de jours pour le faire, parce que on est mis en cause, ça va pas du tout. Et donc, je n'ai pas pu remonter. En revanche, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a comme logistique autour des loups gris en Europe, et notamment le fait que les complices avérés, ça, on ne peut pas dire le contraire, ils étaient tout un groupe. Les complices avérés, dans des situations différentes, à des moments différents, interrogés par des juges aussi bien français qu'italiens, aussi bien, disons spontanément, la vérité, ou comme je l'ai fait en caméra cachée, disent la même chose. On a été en contact avec des services occidentaux. Et ils ont tellement été en contact que deux d'entre eux, les complices principaux de l'organisation et de l'accomplissement de cet attentat, se retrouvent, après l'attentat, en France, avec des faux papiers. Et ils y séjournent longtemps. Et ils organisent, pour le compte des services secrets turcs, des attentats anti-arméniens, 10 sur le territoire français.
Alors là,
donc, question, Monsieur Guillou.
Alors, d'abord, je dirais que, parce que là, on est en train de tout mettre dans le même pot, là. Enfin, je vous donne quelques indications quand même sur le fonctionnement des opérations dans les services, parce que on a l'impression que il peut se permettre à la fois d'aller tuer le pape et puis en même temps d'exécuter des Arméniens en France, etc. Bon, quand il y a des opérations de ce niveau-là, qui sont des opérations ce que qu'on qualifie d'homo, hein, c'est-à-dire avec des actes où on va tuer des gens, où on va neutraliser des gens, etc. Ces opérations sont cloisonnées. Donc il y a pas de mélange des genres, c'est-à-dire que je veux dire il y en a un qui va faire une opération à tel endroit, un autre à tel endroit, etc. Bon. Deuxièmement, l'objectif c'est de pas de remonter au commanditaire. Donc et en la matière les soviétiques, pour les avoir bien connus et pour continuer à bien les connaître dans ce domaine-là, sont parmi les meilleurs au monde pour pouvoir noyer le poisson et puis je dirais mélanger un petit peu les cartes de façon à ce que personne ne remonte. Et dans une opération de ce niveau-là, qui est une opération très stratégique, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va indiquer des fausses pistes où on va mouiller d'autres dispositifs. Dans une opération, on peut même monter, si vous voulez, plusieurs sous-opérations de façon à pouvoir masquer les véritables.
C'est très compliqué.
C'est-à-dire, ce sont pas des opérations qui se montent comme ça. Je pense que, en effet, sur cette affaire-là, il y a plusieurs dispositifs de l'Est qui ont été mobilisés. Enfin, on en a retrouvé en Allemagne de l'Est, on en a retrouvé. Ce que vous évoquez sur la Bulgarie, mais pour moi la Bulgarie c'est pas le...
Quoi en Allemagne de l'Est
c'est... Sur la Stasi, oui. Il y a eu des choses qui ont... il y a des choses qui ont été... Mais pas forcément la Stasi de...
Sur une logistique
d'appui notamment à toute la communication qui a été faite autour de l'attentat.
Oui, bon, c'est l'opération Pabst, elle a démarré après l'attentat.
Voilà.
Alors bon, on va y revenir
après l'attentat.
Et là, vous retrouvez le 5e directorat du KGB.
Dans lequel
vous aviez un des patrons de ce 5e directorat qui n'était pas neutre, puisqu'il s'appelait Monsieur Gorbatchev.
Tout à fait.
Et dont le grand patron était Monsieur Andropov.
Alors on va prendre question de Claude qui nous appelle de Paris. Bonjour Claude.
Oui, bonjour. Je voulais simplement avoir une confirmation. Ali Hadja est aujourd'hui à l'air libre.
Tout à fait, oui. Il a été libéré, oui.
Ouais, bon.
Voilà, c'était votre question ?
Exactement.
Eh bien, très bien, voilà, on vous a répondu. Merci beaucoup, Claude, d'avoir appelé. Alors, on se retrouve d'ici 3 minutes, on écoute Vladimir Ilitch de Michel Sardou. À tout de suite.
La voix est libre. 01 56 2 fois, 44 2 fois.
Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés de l'espoir, dans quelle nuit, au fond de quel brouillard, rien. De l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés. Toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur.
C'était Vladimir Ilitch de Michel Sardou, retour sur l'antenne de La Voix est libre. Pour ceux qui nous rejoignent, nous nous demandons ce matin qui étaient vraiment les commanditaires de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II il y a 30 ans. Qui était derrière Ali Hadja? Alors appelez-nous pour poser vos questions, 01 56 2 fois 44 2 fois. Pour parler de ce sujet très compliqué, je reçois Roumiana Ougarchinska, qui est journaliste d'investigation, spécialiste des pays de l'Est, chargée de cours à l'Institut de criminologie de Paris. Et Roumiana, vous avez mené une enquête sur ce sujet pendant 10 ans et vous avez écrit un livre qui s'intitule « La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II aux presses de la Renaissance ». Et puis j'ai aussi à mes côtés Xavier Guillou, spécialiste de la prévention des risques et de la gestion de crise et par ailleurs ancien responsable des services secrets français justement sur ces questions de gestion de crise. Voilà, donc une fonction que vous avez occupée de 82 à 88. L'émission est interactive, n'hésitez pas à appeler 01 56 2 fois 44 2 fois. Alors donc Ali Hadja qui tente de tuer le pape le 13 mai 81, l'enquête est menée par conjointement les services secrets, la police, la justice
d'abord,
italienne.
La justice italienne,
mais alors justement, est-ce que le Vatican s'est un peu impliqué dans l'enquête Roumiana Ougarchinska?
Alors, les juges italiens, hein, il y en a eu trois qui s'en sont que fait, enfin deux principalement, et le dernier qui a mené la plus grande enquête qui s'est terminée en 97, hein, le juge Prioré, eh bien, ils ont tous lancé des commissions rogatoires sur deux éléments extrêmement importants qui auraient pu leur permettre d'y voir un petit peu plus clair pour les complicités, pour la préparation, etc. Et ces deux éléments sont, un, une photo de Ali Hadja présent lors d'une cérémonie près de Rome, à San Tommaso d'Aquino, où il est dans l'aire réservée aux invités qui ont un laissez-passer fourni par le service du protocole du Vatican. Donc sa présence à cet endroit-là est extrêmement curieuse. Et là, ils ont essayé d'en savoir plus, ils ont eu beaucoup de mal, le Vatican n'y a pas vraiment répondu, d'autant plus que ça s'est mêlé à une autre affaire, à savoir que l'employé du service du protocole qui donc avait délivré ce jour-là les laissez-passer, eh bien sa fille a été enlevée, elle a disparu, et jusqu'à aujourd'hui, on la recherche, c'est la fameuse affaire d'Emmanuel Orlandi en Italie, le monde entier en a parlé, eh bien cette jeune fille a été kidnappée. Et aujourd'hui, il y a encore des juges italiens qui essayent de faire la lumière sur ce qui s'est passé, de savoir pourquoi. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel il n'y a pas eu de véritable coopération de la part du Vatican. Le second élément, qui est encore plus troublant et qui aurait véritablement pu permettre d'en savoir plus, est le fait qu'il y a eu trois balles tirées ce jour-là. Hein. On a récupéré les douilles, les deux, de l'arme de Ali Hadja sur place, et donc, expertisant, on sait, il en a tiré deux. Donc, on les a récupérées. Sauf qu'il y a une troisième balle qui est restée dans la voiture, hein, dans la portière de la voiture qui transportait le pape sur la place. Et elle est rentrée avec la voiture à l'intérieur de l'enceinte du Vatican. Un an après, cette balle a été sertie dans la couronne de la Vierge de Fatima au Portugal, puisque il y a un lien extrêmement important auquel tenait beaucoup le pape, à savoir que le 13 mai, c'est le jour de la prophétie de la Vierge de Fatima. Et qu'il était persuadé que l'attentat était en fait le troisième secret de la Vierge de Fatima. Et donc, il pense que c'est elle qui lui a permis de survivre. Normalement, il aurait dû mourir. Hein. Il était gravement atteint. Ouais. Et donc, cette balle, eh bien, elle est dans la couronne de la Vierge. Et c'est un objet de culte. Donc, quand les juges italiens ont demandé à l'expertiser, on leur a dit, eh bien, désolé, mais ce n'est plus possible.
Donc ça veut dire que sur la place Saint-Pierre, il y avait un deuxième tireur,
oui,
qui est
avec
dont
une
la
autre
balle,
arme.
Avec une autre arme, et la balle, bon, aujourd'hui elle se retrouve dans la couronne,
oui.
mais ça veut dire qu'elle a été retrouvée combien de temps après cette balle dans la voiture?
Ah, elle était retrouvée tout de suite dans la voiture, mais si vous voulez, là c'est tout. La troisième balle était propriété de l'État du Vatican, hein. Donc les juges d'instruction italiens doivent demander, hein, par commission rogatoire, à expertiser, ils peuvent pas l'avoir comme ça, on peut pas leur donner tout de suite. Or, elle n'a pas été donnée à la justice, elle a été, on a décidé qu'on en fera un objet de culte.
Et sur la place Saint-Pierre, on n'a jamais retrouvé le deuxième homme qui a tiré sur le pape.
Non, il y a une photo qui a été prise par un Américain qui était par hasard sur la place. Donc on voit de trois quarts d'eau un jeune homme en train de s'enfuir. Il y a eu de multiples interprétations sur qui pouvait-il être, etc., etc. On voit qu'il est très brun, qu'il a des cheveux très noirs, très frisés. Il porte un blouson noir. Et d'ailleurs, sur les quelques photos qui ont été faites lors de l'attentat, on remarque qu'à deux reprises, une main qui dépasse de la foule et qui tient une arme. Juste au moment où ils ont tiré sur le pape. Et donc, on voit bien que l'un des bras, c'est une veste claire, c'est celle d'Ali Hadja, et l'autre bras, c'est une veste sombre, donc c'est le blouson noir de ce jeune homme qui s'enfuit. Il y a, oui, des complices, oui, il y a d'autres tireurs, oui, oui.
Xavier Guillaume.
Oui, dans une opération comme ça, je pense qu'il y avait plusieurs personnes, enfin, il y avait même une organisation, parce que on va pas, si vous voulez, exécuter un homme de la dimension de Jean-Paul II, qui est quand même un géant de l'histoire, enfin, je veux dire, sans avoir une organisation extrêmement élaborée autour. Hein. Donc, alors, je voudrais bien revenir sur cette période-là, parce que cette période-là, on a l'impression que, si vous voulez, il y a un camp d'un côté, un autre camp de l'autre. Il faut que les gens se rendent bien compte que c'était pas des armées qui se confrontaient, c'était des services qui s'opposaient avec des gestions, comme vous dites, très borderline des intérêts des uns et des autres. Il y avait des niveaux de pénétration réciproques qui étaient quand même extrêmement importants. Ça fait déjà depuis 40 ans, si vous voulez, que tout le monde était dans cette schizophrénie ambiante avec des niveaux de perméabilité. Mais oui, mais tout le monde était pénétré.
Mais
tout le monde
était
pénétré. Le KGB a été pénétré, regardez l'affaire Farwell, mais la CIA a été pénétrée à plusieurs reprises et à très haut niveau, les services anglais aussi, les services français aussi, le Vatican a été une plateforme qui a été particulièrement recherchée par les uns et par les autres, surtout avec un personnage comme Jean-Paul II qui échappait à tout le monde. C'était quelqu'un qui avait une personnalité et des convictions qui étaient telles que de toute façon personne ne pouvait avoir la main sur lui. D'accord. Et donc dans ces événements, je rappelle toujours que cette période des années 80 a été décisive parce que c'est lui qui a été le catalyseur de la bascule qu'on a connue par ailleurs. Que de toute façon, elle serait intervenue à un moment ou à un autre, mais jamais comme ça s'est produit sous son impulsion, un Vlacalavel, un Valéza, etc. n'ont pu agir comme ils ont agi avec ce niveau de résistance que parce que il y avait le pape. Et donc c'est pour moi c'est un grand géant d'histoire. Enfin, c'est un miraculé aussi de l'histoire parce que théoriquement c'est vrai que comme vous le dites, si l'opération avait été exécutée correctement, il n'aurait pas dû pouvoir continuer.
Oui, parce qu'Ali Hadja s'est toujours étonné du fait qu'il soit pas mort.
Oui.
Vous savez, il peut y avoir aussi. Alors il y a la main de Marie, puis il y a un peu de chance, et puis il y a les contingences, etc. Enfin bref, il est pas mort, et donc la suite des événements a fait que ça a été plutôt dans le sens de la libération des peuples et de la transformation de cette histoire, avec la déconstruction de toute cette sanctuarisation de l'Europe. Et c'est là où je reviens sur ce qui s'est passé juste après l'attentat, quand les soviétiques ont vu que ça n'avait pas fonctionné. Il fallait déconstruire tout de suite l'opération. Et il fallait surtout pas mettre en danger ceux qui allaient prendre la main, notamment, je reviens toujours sur ce cinquième directorat du KGB. Alors c'est très compliqué pour les auditeurs, mais le cinquième directorat du KGB, c'est celui qui s'occupait non pas des opérations militaires, des opérations politiques et autres, mais des opérations de masse, c'est-à-dire toute la désinformation. Et entre autres, c'est ce directorat qui a les questions religieuses. Et c'était Gorbatchev qui était à la direction de ce directorat. Et Gorbatchev était en train de monter en puissance. Et Andropov et Gorbatchev avaient compris que de toute façon, c'était cuit, quoi. Ils n'arriveraient pas à redresser la situation dans les modifications qu'un Reagan et un Bush étaient en train d'engager pour changer de contexte un petit peu géopolitique.
Alors on va prendre.
Et donc ça servait à rien, si vous voulez, de mettre en cause à l'époque cette filière-là. Sachant qu'en plus de ça, les directives avaient plutôt été données par Brejnev, à des filières qui étaient plutôt des filières militaires, parce que cette zone de la Méditerranée orientale, comme du Moyen-Orient, était plutôt entre les mains de ce qu'on appelle le GRU, c'est-à-dire les services secrets de l'armée soviétique, hein, et avec notamment Primakov qui était à l'époque le grand patron de cette zone-là, quoi.
Alors voilà. On va prendre une question. Françoise qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour messieurs, dames. Eh bien, je vous écoute attentivement. J'espère que je vais pouvoir poser ma question.
Allez-y, clairement. On vous écoute, oui.
Merci. Ben voilà, je garde quelque part en mémoire la rencontre de Jean-Paul II avec ce fameux Ali Aksa, qui ressemblait à une confession. Et à ce mouvement, je dirais même presque d'effroi qu'a pu avoir Jean-Paul II au moment où je suppose qu'Ali lui a fait part de qui lui avait armé son bras. Et je me suis dit que peut-être, enfin Jean-Paul II était quand même bien au courant de toutes les conspirations à travers le monde contre lui, tout ce que vous venez de dire. Et est-ce qu'il ne serait pas permis de penser que justement l'ennemi était à l'intérieur même de l'Église ?
Alors, Romiana Ugarczyńska, merci beaucoup pour cette question, Françoise.
Alors, Jean-Paul II lui-même s'est exprimé avec beaucoup de retenue sur cette affaire. D'abord, il a pardonné, ce qui est essentiel et qui montre la dimension du personnage. Ensuite, il a dit dans le dernier ouvrage paru, qu'il a publié, qu'il était convaincu qu'il s'agissait d'un complot. Ensuite, lors de la visite qu'il a effectuée en Bulgarie au début des années 2000, il a clairement dit qu'il a toujours été persuadé de la non-implication des Bulgares. Donc, si vous voulez, Jean-Paul II savait un certain nombre de choses. Alors, que se sont-ils dit ? Il n'y a que deux personnes qui peuvent le dire, Jean-Paul II et Ali Hadja. Alors, que dit Ali Hadja depuis qu'il a été gracié, depuis qu'il a quitté les jaunes italiennes ? Et depuis maintenant qu'il est véritablement un homme libre. Alors, dès qu'il a été gracié, qu'il a été extradé vers la Turquie, il a écrit une énorme lettre adressée à ses frères chrétiens, hein, puisqu'il s'est converti, en disant que le diable était dans le Vatican, hein, et que le Vatican était impliqué. Ensuite, depuis qu'il est maintenant un homme libre, il a écrit un livre, il l'a publié. Il a d'ailleurs donné des interviews dans les médias turcs, où il donne plus de détails, il parle d'un curé qui l'aurait aidé, plus ou moins entraîné, il donne des noms d'ecclésiastiques, il a même cité parmi les organisateurs Casaroli, Monseigneur Casaroli. Alors, je n'y crois pas une seconde. Hein.
Mais parce que pendant sa détention, il a fait des dizaines
voilà,
de,
je n'y crois
de
pas
déclarations
une seconde.
Contraires.
Ali Hadja a menti. Et de façon établie par la justice italienne, hein, notamment sur l'affaire de la filière bulgare et de l'implication de ce pauvre Sergueï Antonov qui a vraiment été sacrifié sur l'autel de la guerre froide. Alors lui, il est mort, personne n'en parle, et c'est un homme qu'on a rendu fou. On lui a volé sa vie et on s'en fiche un petit peu. Mais donc Ali Hadja, oui, s'est adapté. Vous savez, il a un instinct de survie extrêmement fort, et donc il est capable, en fonction de ses intérêts et de la volonté de sauver sa peau surtout, de dire tout
oui,
et n'importe quoi.
Parce qu'il a
quoi.
Dû avoir des pressions, ouais. C'est pour ça que
tout et n'importe quoi.
Mais je voudrais pas qu'on fasse de Ali Hadja un héros de cette affaire-là, parce que le grand héros, c'est quand même Jean-Paul II, qui a survécu à cet attentat et qui, derrière, je reviens toujours dessus, a généré encore plus déterminé qu'il ne l'était avant, une évolution de l'ensemble de notre monde occidental qui est quand même déterminante. Et il l'a fait, cette évolution, il l'a faite en générant plutôt des logiques de paix que des logiques de guerre. Parce que moi, j'ai vécu cette période-là, je peux vous garantir que c'était quand même extrêmement borderline, qu'on est passé au ras de quelques catastrophes, notamment par rapport à ce qu'on appelle l'armée rouge, hein, ou par rapport au service du GRU, y compris qui voulait, enfin qui était un peu jusqu'au boutiste. Et alors, je reviens toujours là-dessus. Enfin, tout le monde se parlait à cette époque-là. Hein, donc, ça ne veut pas dire forcément que parce que le Vatican discutait avec les gens de l'Est ou avec les gens de l'Ouest, les cardinaux étaient automatiquement des agents du KGB ou des agents de la CIA. Je veux dire, tout le monde se parlait parce que la responsabilité des gens qui étaient dans les services ou la secrétaire d'État et compagnie, c'était de maintenir un espèce de statu quo, des évolutions maîtrisées. C'est quand même ce qui s'est passé. Je veux dire, au bout de quand même, quand on regarde au bout de 10-15 ans, on a fait évoluer l'ensemble de cette Europe sans passer par la guerre. Et en mettant même en mode échec les jusqu'au boutistes militaires qui, eux, étaient plutôt pour, détruire l'ensemble de ce sanctuaire.
Alors, on va prendre une dernière question. Philippe, vous nous appelez de Viroflay, bonjour.
Oui, bonjour. D'abord, merci pour cette émission. Bon, j'ai beaucoup moi-même étudié la question et j'apprécie beaucoup le professionnalisme de Monsieur Xavier Guillou. Il y a deux maîtres mots à retenir, infiltration, manipulation. Alors, je vous lirai, et puis après je dirai un petit mot, ce qui est paru dans Le Monde le mercredi 7 août 1991, il y a trois lignes, en page 3, et que Monsieur Guillou peut-être connaît. C'est le résultat d'une lettre que Monsieur Giulio Andreotti avait envoyé à Monsieur Gorbatchev pour lui demander si le KGB était impliqué, si l'Union soviétique était impliquée. Donc le président du Conseil italien demande à Gorbatchev, est-ce que vous êtes impliqué? Alors dans le petit entrefilet du Monde, il est répondu, le KGB n'était pas impliqué dans l'attentat contre le pape, selon Monsieur Gorbatchev. C'est une manipulation magnifique, formidable. Et je garde ce petit entrefilet du 7 août 91, page 3 du Monde, comme un sommet de la manipulation. Alors, concernant la manipulation, je dirais à chère Madame Roumania, même quand elle pense qu'elle a eu accès à des documents secrets confidentiels, on lui donne ce qu'on veut bien lui donner, et même quand elle arrive en caméra cachée, certains savent qu'il y a une caméra cachée, et ils font comme s'ils ne savaient pas. Il y a une naïveté incroyable que M. Xavier Guillou met bien en évidence, et je l'en remercie.
Ah bah écoutez, merci Philippe pour votre...
La théorie du complot et de la manipulation mutuelle infinie restera toujours. Moi, vous savez, je suis née derrière le mur de Berlin, et je peux vous dire que quand le pape slave a été élu et qu'il a dit n'ayez pas peur, on savait très bien à qui il s'adressait, parce que la peur était la gangrène qui tuait ce monde de l'Est. Et donc je vous assure que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec la plus grande conviction de recherche de vérité, et pour avoir beaucoup travaillé sur les services secrets, je sais parfaitement quel genre de manipulation il peut y avoir, mais je sais également comment j'ai eu ces documents, et je sais que là, il était impossible qu'on me manipule. Et après, moi, j'en reviens au fait quand même, parce qu'on peut faire des interprétations infinies. Vous avez quand même Ali Hadjar, avec ses compagnons loups gris, qui voyagent pendant 18 mois dans des pays occidentaux. Ali Hadjar a déclaré qu'il allait tuer le pape. Il est sur le territoire des services secrets occidentaux. Écoutez, ils sont quand même drôlement mauvais pour ne pas s'être aperçus que tout ce groupe, pendant 18 mois, travaillait à la solde des soviétiques et de, comme on dit, le renseignement extérieur militaire russe, d'une part. D'autre part, eh bien, ces gens-là, on sait qu'ils ont en tout cas collaboré avec les services turcs. Donc, à mon avis, les services turcs devraient en connaître un rayon là-dessus. Et ça aussi, ça a été prouvé, non pas par moi, mais par des commissions d'enquête parlementaires et par la justice. Donc après, moi, je reste sur la question. Vous savez, ils ont acheté un lot d'armes. L'une de ces armes a servi à tirer sur le pape le 13 mai. Une autre de ces armes, eh bien, on l'a retrouvée en possession d'un autre loup gris à la frontière des Pays-Bas, alors qu'il y avait une visite imminente du pape aux Pays-Bas. Et donc, ce loup gris était en possession d'une arme du même lot. Et c'était un loup gris qui séjournait en France depuis 2 ans dans un foyer Sonacotra. Donc, essayons de remonter les faits.
Là-dessus, moi, j'aimerais peut-être conclure sur une chose qui est importante. Enfin, j'invite les auditeurs à aller voir. Il y a une série qui a été faite par Jean Guinel, qui s'appelle l'Histoire des services secrets français. C'est sur le problème de la relation par rapport à ces faits entre la raison d'État et l'État de droit. Il faut quand même pas oublier que en Occident, on est quand même dans des États de droit. Et donc, quand on repère des gens qui se promènent dans la nature comme ça, à un moment ou à un autre, on est obligé de passer devant le politique ou devant un certain nombre de dispositifs judiciaires et autres. C'est dommage que Jules Bruguière soit pas là pour pouvoir arrêter les gens. On le voit bien, par exemple, dans la lutte antiterroriste en ce moment vis-à-vis de l'islamisme ou du djihadisme. On peut avoir des gens qui se promènent partout en Europe et on peut très bien ne pas être en mesure de pouvoir agir pour pouvoir les neutraliser, parce que l'espace Schengen, etc., etc.
Alors finalement, est-ce que
Si vous voulez, il y a le problème de la quand on a du renseignement, il y a le problème de la transmission aux politiques et la décision de neutraliser ou de d'arrêter les gens. Hein, et parfois, le politique ne la prend pas parce qu'il a peur. Hein, donc la peur n'est pas forcément dans le camp qu'on pense. Et puis parfois, il y a aussi l'action des services secrets qui vont faire de la prévention en diffusant de l'information aux autres services. Et puis à un moment donné, il y a des actions de prévention qui sont mises en place.
Est-ce qu'un jour on aura le fin mot de cette histoire ?
Qu'importe. Je vais vous dire, pour moi, le principal, c'est que le pape soit resté en vie, que le pape ait pu, avec sa dimension personnelle, générer ce mouvement historique qu'on a connu sur l'Europe et que les Européens n'aient pas connu la guerre. Voilà. C'est la chose la plus importante. Le reste, je veux dire, c'est de la contingence. Et quelque part, la main de Marie a dévié cette balle, et tant mieux.
Voilà. Bon, écoutez, c'est la fin de La Voix est libre. Merci à tous les deux d'être venus. Romiano Garcinska, journaliste d'investigation, spécialiste des pays de l'Est. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II aux presses de la Renaissance. Et Xavier Guillot, ancien responsable des services secrets français sur les questions de gestion de crise. Merci aussi à Jean-Baptiste Leroux pour la coordination de cette émission. Lundi, dans La Voix est libre, nous parlerons d'examen. Comment aider vos enfants à passer leur bac ou leur concours dans les meilleures conditions possibles. Merci de votre fidélité. À lundi.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Parole d'évêque.
Parole d'évêque.
Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de Clément Soudaille à 11h30 et 17h.
Monseigneur Gérard de Cour, bonjour.
Bonjour.
L'actualité.
Peu importe le modèle politique, l'important c'est la grandeur d'âme.
La vie de l'Église.
Parabole d'unité, je crois que c'est cela, la réalité de Thésée.
La vie du diocèse.
Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de gens du voyage qui sont des catholiques formidables.
Décrypté par un évêque d'Île-de-France.
Merci, monsieur.
Merci, Clément.
Parole d'évêque, tous les jours, à 11h30 et 17h. Retrouvez l'intégralité de cette émission le dimanche à 10h.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Radio Notre-Dame vous invite à suivre en direct les grandes célébrations dominicales. À 16h, retrouvez l'office de vêpres depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et à 18h30, la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le Seigneur soit
en union de prière avec des milliers de fidèles, les grandes célébrations du dimanche à 16h et 18h30 sur Radio Notre-Dame.
Vous voulez manifester votre reconnaissance aux prêtres âgés ? Vous voulez passer un moment agréable dans un parc historique en plein Paris ? Alors réservez dès maintenant les samedis 21 et dimanche 22 mai pour les journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres à la maison Marie-Thérèse. Vous pourrez partager un déjeuner champêtre, dénicher de bonnes affaires au comptoir, jouer avec vos enfants au chamboule-tout ou à la pêche à la ligne.
Rendez-vous les 21 et 22 mai de 11h à 18h à la maison Marie-Thérèse, 92 avenue d'Enfer Rochereau à Paris. Les prêtres âgés vous en seront reconnaissants.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe ! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Vous avez besoin d'un complément de retraite ou d'obtenir un important capital sans déménager. Vous pouvez vendre en viager libre ou occupé avec garantie de paiement assurée par votre notaire.
La société Viager Prévoyance, expert en droit viager, vend en viager libre ou occupé sur Paris-Île-de-France et Côte d'Azur. Pour une estimation gratuite et confidentielle, contactez-nous au 01 45 05 56 56.
45 05 56 56
et sur viagerprévoyance.com.
Viager Prévoyance, 189 rue de la Pompe, Paris 16e.
Aujourd'hui, vous êtes des milliers à nous écouter sur Internet à Paris, Lyon, Nantes ou Marseille. Désormais, grâce à l'application Radio Notre-Dame, vous pouvez nous écouter également partout en France depuis votre iPhone. Radio Notre-Dame via le web, c'est toute la journée, c'est partout et c'est gratuit.
Dans La Voix est libre, lundi, nous verrons comment aider vos enfants à passer leur bac ou leur concours dans les meilleures conditions possibles. Ce sera une émission pratique avec beaucoup de conseils. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, 01 56 56 44 44. Où vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions si vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec vos enfants qui passent un examen. Alors je recevrai pour en parler Sophie de Tarlet, qui est journaliste rédacteur en chef à L'Étudiant, avec Béatrix Bonnet. Bonnier-Prin, qui est pédopsychiatre, et puis qui travaille avec Françoise Ouvry, professeure agrégée de lettres modernes. Elles seront donc toutes les trois en studio à 10h05. Restez à l'écoute de Radio Notre-Dame, vous retrouvez Face aux Chrétiens, présenté par Dominique Chivot. Il recevait hier le député souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la République, qui est déjà entré en campagne pour la présidentielle 2012. Il est 10h dans 5 secondes, le flash de Marie-Ange de Montesquieu.